Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons ouvrir un passage dans notre Bible et nous allons faire un commentaire d'un texte. Je vous invite à ouvrir une page dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 27, s'il vous plaît. Et nous allons, aborder cette réflexion. Et chapitre 27 et verset 62. Voilà. Verset 62, « Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, « Seigneur, nous nous souvenons de cet imposteur que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, « Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc. » Que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple « Il est ressuscité des morts ». Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez ». Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Nous allons reprendre maintenant au chapitre 28 et au verset 11. Voilà, verset 11. « Pendant qu'ils étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, « Dites, ses disciples sont venus de lui de nuit le dérober pendant que nous dormions, et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs, jusqu'à ce jour, entendez bien, ce bruit s'est répandu parmi les Juifs, jusqu'à ce jour. Comprenez qu'on a fait tout simplement croire aux gens que Jésus était bien mort et qu'il n'était certainement pas question de résurrection. Alors, il y a beaucoup de gens, des millions de gens, qui encore aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de Jésus, pensent que la résurrection, ça n'existe pas, c'est pas possible, c'est inconcevable, c'est incroyable. Alors, il semblerait que cette nouvelle-là, cette rumeur, soit véritablement particulièrement tenace. On va reprendre un petit peu le contexte et rappeler quelque chose, en tous les cas souligner une grande vérité essentielle du message évangélique, c'est que réellement, Jésus est ressuscité. Alors, quand on lit l'Évangile, on s'aperçoit que à peine Jésus ait été mis dans le tombeau, on s'aperçoit par les textes que la conscience de ses accusateurs, de ses juges et de ses meurtriers, les tourmente. Ils sont tourmentés par, ils n'ont pas une bonne conscience, on pourrait dire. Et à ce moment-là, comme tous ces gens ressentent un petit peu le même sentiment après avoir crucifié Jésus et puis après l'avoir finalement mis à mort, d'un commun accord, c'est ce que nous dit le récit, le clergé officiel, pourrait-on dire, et les pharisiens vont se précipiter chez Pilate, qui est le procurateur romain, et ils vont aller frapper à sa porte. Et ils ont quelque chose à lui demander. Jésus, est bien mort. Voilà. Ils vont partir en disant, voilà, nous allons nous réconforter, même si nous sommes troublés à l'intérieur, nous allons dire que véritablement le crucifié, ce Jésus-là, de prophète de Nazareth, eh bien, il est bien mort. Mais je reviens quand même à ce que nous avions dit il y a un instant. Il y a comme un sourd pressentiment qui pèse sur la conscience et dans l'âme de ces gens, et ça commence à les inquiéter sérieusement. Hier, nous l'avons crucifié. Aujourd'hui, nous l'avons mis dans le tombeau. Mais reste une grande inconnue. Demain. Premier jour, crucifié. Deuxième jour, enseveli. Troisième jour, qu'est-ce que l'on peut dire de demain? Qu'est-ce qui va se passer demain? Alors c'est vrai que ça suppose une question pour ces gens et pour tout à chacun lorsque finalement on a fait le contraire de ce que l'on aurait dû faire. Comment être en paix quand on sait pertinemment que l'on a crucifié non seulement un homme, mais qu'on a crucifié la vérité sur l'autel de la haine et du mensonge? Alors c'est vrai que c'était gravissime ce qu'ils avaient fait, parce qu'un homme était mort, un homme qui n'avait jamais fait de mal. D'ailleurs, Pilate le dira à un moment donné, mais au moment où ses accusateurs se déchaînaient pour obtenir la peine capitale, Pilate dira devant tout le monde, mais qu'a-t-il fait de mal? Qu'a-t-il fait, finalement, qui mérite la mort? Alors, ces hommes ont sacrifié la vérité, et je voudrais quand même vous dire que ce sont des juges. Ce sont des hommes de la religion, des hommes qui prétendent croire en Dieu. Ils ont sacrifié la vérité, et je le répète, sur l'autel de la haine, tout simplement. Et si l'on se souvient, et peut-être y en avait-il qui étaient là à ce moment-là, si l'on se souvient au moment où Jésus précisément a rendu l'esprit, quand il dira cette parole fameuse, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », il y a un homme qui était au bas de la croix. Cet homme était un centenier. Il était là pour exécuter cette sinistre besogne. Et il a dit suffisamment fort, il a dit suffisamment haut pour que tout le monde l'entende, il déclarera, il dira, mais assurément, en parlant de Jésus, cet homme était juste, n'est-ce pas le Fils de Dieu? Alors, je ne sais pas si tous les conspirateurs, et si tout ce clergé, ou si tous ces pharisiens étaient là au moment où cette déclaration a été faite, mais il y en avait certainement quelques-uns, et ils savaient pertinemment ce qu'ils avaient fait. Revenons au troisième jour. Le troisième jour est décidément bien embarrassant, hein, parce que on a réussi à le condamner. On l'a exécuté. On est tranquille, on l'a mis dans un tombeau. Bon, jusqu'ici, hein, tout va bien. Et en principe, quand on est dans un tombeau, on ne ressort pas. Mais il y a quand même cette question du troisième jour. Alors, ça comporte des choses très délicates. C'est un moment crucial, parce que la vérité ne va-t-elle pas apparaître devant tous? Soit les pharisiens et les exécuteurs de Jésus ont raison, ou c'est Jésus qui a raison. Et à ce moment-là, si Jésus a raison, qui sera l'imposteur si Jésus a dit vrai? Dans 3 jours, eh bien, vous verrez ce qui se passera. Alors, comment ils peuvent se tirer d'affaire? Le verset 63 répond un peu à cette question. Comment se tirer d'affaire? Alors, ils sont venus vers Pilate et lui ont dit, « Mais, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. » Je vous dirai simplement qu'ils s'en sont souvenus. Mais il fallait s'en souvenir avant. Là, ils ont pris de gros risques. Et des risques qui vont les entraîner quand même dans une drôle de compromission. Je ressusciterai. Alors, il faut trouver un moyen, une sorte de subterfuge, pourrait-on dire. Et c'est ce que nous explique la suite. Et ils vont demander, ils vont même ordonner à Pilate ce qu'il faut faire. « Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. » Alors, si c'est le quatrième ou le cinquième jour, là, on sera tranquille. Mais comme il a dit que c'était le troisième, on va prendre au moins un minimum de précautions. Eh bien, on te demande d'envoyer une escouade de soldats et d'entourer, finalement, eh bien, le sépulcre. Et puis là, on verra bien. On verra. Vous savez, que peut l'homme insensé, comme ils le sont d'ailleurs ces gens, avec leurs faibles artifices face à l'incommensurable puissance de Dieu. Voilà. Ce sont des croyants, ces gens-là, pharisiens et puis tous les autres docteurs de la loi, ce sont de croyants, enfin, prétendent-ils être croyants. Alors, naturellement, c'est véritablement faire fi de ce que Dieu est réellement. Alors, on demande quelques soldats, 4, 6, et il y a quand même une part de ridicule parce que ces soldats, en principe, on les met dans des lieux stratégiques, on les met dans des endroits où il y a la vie, mais là, on va les placer dans un cimetière. Il faut le faire, hein. Ah oui, vous savez, ça ne craint rien, un cimetière, hein. Il n'y a pas trop de risques, hein. Ce n'est pas ceux qui sont dedans qui vont troubler ceux qui sont encore à l'extérieur, hein. Alors, on va mettre des soldats donc dans le cimetière. C'est une idée stupide, mais c'est une idée de dernière chance, parce que finalement, si ça se révèle être la vérité, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. À la rigueur, qu'on ait peur des profanations perpétrées par les vivants, ça se comprend. C'est malheureusement ce qui arrive. L'irrespect qui accourt dans notre société aujourd'hui, ça devient terrible. Alors, dans ce cas, ça pourrait se comprendre. Mais de là à monter la garde auprès d'un mort, c'est même pas veiller à un mort, c'est tout simplement eh bien, mettre là, ces soldats auprès de Jésus, dans le tombeau, enfin, auprès du tombeau. Et là, je crois que nous touchons l'absurdité. Vous savez, on va souligner quelque chose. Et je voudrais quand même souligner ce qui était le fait de ces autorités religieuses qui ont condamné Jésus. Un péché. Un mal qui a toujours eu cours dans l'histoire des hommes, c'est le mensonge. Ouais. Vous savez ce que c'est ? Tout le monde sait ce que c'est que le mensonge. Le mensonge. Et afin de faire taire la voix de leur conscience, qui parle de plus en plus fort, alors il faut invoquer un prétexte. Parce que c'est ce que nous avons lu. Afin que ses disciples, parce que quand on a une responsabilité qu'on se décharge sur les autres, eh bien voilà ce que l'on dit. Afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, répandre la nouvelle, eh bien, regardez, il est ressuscité des morts. Qui dit vrai dans cette affaire? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que ce sont les disciples qui ont cru les paroles de Jésus? Ou est-ce que toutes ces autorités religieuses ont tellement cru à Jésus qu'elles sont très très embarrassées maintenant? Est-ce qu'il n'y aurait que la vérité à redouter? On ne devrait pas avoir peur de la vérité. La vérité, elle fait du bien. La vérité, eh bien, c'est l'ordre. La vérité, c'est la justice. La vérité, c'est la vie. Et on peut croire que tous ces gens qui sont là, remplis de haine contre Jésus, n'aiment pas la justice, n'aiment pas la lumière, parce qu'ils sont pris à leur propre piège. On le verra d'ici quelques instants. La Bible nous dit une chose, c'est, et vous connaissez le texte, que les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est écrit à plusieurs reprises. C'est même écrit dans les dernières lignes de l'Apocalypse. Il nous est parlé des chiens, il nous est parlé des enchanteurs, il nous est parlé de tous ceux qui ceci et cela, les idolâtres, et tous les menteurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça, c'est la parole qui nous dit cela. Mais le mensonge provient de la tortuosité du cœur de l'homme, et cette tortuosité est telle que le menteur ne sait plus, et je dis bien, je rappelle, ne sait plus s'il ment ou non. Quelqu'un qui a l'habitude de mentir, il ment avec une telle aisance que quand il ment, il croit que c'est la vérité. Alors faut faire attention, parce que il peut vous regarder droit dans les yeux, à vous faire tituber en disant « mais moi ce que je te dis c'est la vérité », alors que... C'est ça le gros problème, parce que ça devient une véritable confusion dans l'esprit, psychologiquement. Et on a vu des gens comme ça. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des menteurs qui étaient vraiment des menteurs et qui tenaient pour argent comptant ce qu'ils disaient, convainquant les autres, et ils ne bougeaient pas d'un iota. Alors bon, après, on voit hein, comment ça se passe. Parce qu'il y a les œuvres, il y a les dires, il y a les fruits. Ça se révèle à un moment ou à un autre. Mais quand on a un tant soit peu, eh bien, le sens et l'esprit de vérité, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Au bout d'un moment, on s'aperçoit que, eh bien, il y a quelque chose qui cloche. Et voyez-vous, ce qui est assez impressionnant, et c'est quand même écrit dans la Bible, qui est le livre de la vérité, que tous ces gens qui se livrent à ce mensonge, qui craignent d'être dévoilés, ce sont quand même les autorités juives de Jérusalem, d'Israël. Alors on se dirait non, c'est pas possible. Des gens qui vont au temple tous les jours, des gens qui font trois fois la prière le jour, qui font ceci, qui font cela, ça ne peut pas être autrement, ce sont des gens de justice et de vérité. Eh bien, c'est écrit, c'est marqué, nous l'avons devant nous, et nous voyons que le menteur, pour se blanchir, ou tout simplement se crédibiliser, eh bien il fait une chose, c'est qu'il accuse les autres, eh bien des pires mensonges et des impostures, et d'impostures. Et avec ça, il se frotte les mains en disant, mais de toute façon, puisque j'ai renvoyé les choses aux autres, ça doit être forcément, et tout le monde croira que ce sont les autres, mais pas moi. Je poursuis, et je dis et j'affirme que le mensonge est un abîme. Oui, c'est pas seulement, c'est pas une peccadille. Souvent, le monde religieux nous a dit qu'il y avait des petits et des gros mensonges, qu'il y avait des affreux mensonges et des mensonges pieux. Vous comprenez ce que ça veut dire, hein? C'est un abîme. Le mensonge est un piège qui se referme sur celui qui s'y adonne. Écoutez ce qui nous est dit à propos de piège, dans lequel, eh bien, le menteur tombe. Dans le psaume 7 et au verset 15 à 17, écoutez bien ce qu'il nous est dit. Voici le mensonge, le méchant, pardon, prépare le mal. Moi, j'ai changé seulement le mot méchant, je l'ai mis menteur. Il prépare le mal. Il conçoit l'iniquité, c'est-à-dire l'injustice. Il enfante le néant, c'est-à-dire que ça n'aboutit à rien. C'est véritablement une chose nulle, nulle et non avenue. Il nous est dit qu'il ouvre une fosse, il la creuse. Il la creuse pour quelqu'un d'autre. Mais il tombe dans la fosse qu'il a faite, son iniquité retombe sur sa tête, sa violence descend sur son front. Voilà ce que nous dit le psaume. Et si vous lisez les psaumes, vous lisez les proverbes, vous lisez tous les livres de la Bible, d'une manière ou d'une autre, il est toujours question du mensonge. Et de son pouvoir, de sa séduction, de sa fascination et de ses conséquences naturellement. Celui qui sème le vent récolte la tempête. On connaît ça naturellement. Alors, ils vont se lancer, là, ces autorités, à des accusations purement gratuites. Mais qu'en est-il finalement? Parce que, qu'en est-il pour les disciples à ce moment-là? Les disciples, on ne sait plus où ils en sont rendus. Ils sont perdus dans une forme de dépression, d'angoisse, d'incrédulité et surtout de désarroi, ce qui prouve quelque part que la conscience troublée des meurtriers, de ceux qui ont accusé Jésus, de ceux qui sont en train de, finalement, eh bien, pratiquer le mensonge, eh bien, leur conscience troublée était plus clairvoyante que la foi défaillante des disciples. Et ça, faut le faire, hein. À tel point que les disciples, à ce moment-là, ils se cachaient tous. Quand Jésus a rendu l'esprit, quand il était là, dans cette obscurité, les ténèbres qui sont appesanties sur la terre à ce moment-là, il nous est dit que, à part Jean et Marie, au pied de la croix, tous les autres disciples, les femmes qui avaient accompagné Jésus, se tenaient dans l'éloignement des choses qui arrivaient. Ils étaient donc dans une certaine, une confusion, une stupeur, nous pourrions dire. Et eux, ils n'avaient pas compris. Ils étaient complètement perdus, mais on s'aperçoit que par contre, la conscience des pharisiens et puis de tout cela était plus avisée, parce qu'ils avaient peur, ils craignaient que finalement, en ayant fait et dit ce qu'ils avaient dit, eh bien, ils allaient se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Et à souligner ce que nous avons lu, en disant ceci, cette dernière imposture sera pire que la première. Pourquoi disent-ils ça? Tout le ministère prophétique de Christ, que ce soit ses miracles éclatants, que ce soit ses messages, que ce soit sa puissance divine, était déjà depuis 3 ans, entendez bien, depuis tant de temps, un sujet d'embarras pour ses ennemis. Parce que Jésus, non seulement disait, il disait la vérité, il prouvait la vérité de ce qu'il disait, par des guérisons, par un secours rempli de compassion, il était capable de nourrir les foules, et puis ceci et bien d'autres choses. Et ça, ça dérangeait. Ah oui. Jésus disposait d'un pouvoir que le temple ou la synagogue, eh bien, ignoré complètement et totalement. Voilà. Tout ce bien prodigué par Jésus aux malheureux était regardé comme une imposture. C'est pour ça qu'il est dit, mais cette dernière imposture sera pire que les premières, ou la première, si vous voulez. Parce que depuis 3 ans, eh bien, Jésus passait d'un lieu à un autre, et puis, on sait ce qu'il faisait, tout l'évangile est là pour nous le rappeler. Ce qui mettait, finalement, les pharisiens et tous ces gens-là, eh bien, dans une drôle de situation, et faisait la preuve de leur incurie spirituelle. Ils se disaient, se prétendaient être les maîtres à penser, être les enseignants de la nation d'Israël, apporter le conseil de Dieu, donner et prêcher ou proclamer les commandements de Dieu, mais finalement, ils n'étaient rien. C'était que des coquilles vides, ces gens-là, avec peut-être de beaux habits, avec des belles cérémonies, des rites, mais c'était vide, il n'y avait que la mort. Et c'est ça justement ce qu'ils craignent. C'est que Jésus, quelque part, eh bien, fasse la preuve de leur ineptie, de leur impuissance, de leur sottise et de leur folie. Alors, qu'on en vienne à ce que le Christ ressuscite, à ce que le prophète de Nazareth ressuscite, eh bien, certainement, serait le comble, car si tel était le cas, cela établirait formellement le triomphe de la vérité, de la parole de Jésus et de son œuvre. C'est logique. Pire, le troisième jour, je ressusciterai. Jésus l'a dit, et Jésus va en faire la démonstration devant le monde entier, à commencer par ses détracteurs, par ses ennemis. On passe au verset 66, quand il est dit ceci. Ils s'en allèrent et ils s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Parce que Pilate a refusé de leur donner des soldats. Vous l'avez lu, on l'a lu ensemble. Il dira tout simplement, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Et il a refusé de se mêler. Pilate avait été déjà mêlé dans cette affaire de condamnation. Et il avait prononcé un jugement de mort. On lui avait arraché un jugement mettant à mort, demandant la mort de Jésus. Alors il a dit, une fois ça va, maintenant n'allez pas me demander, parce que ça devient ridicule et stupide votre affaire, n'allez pas me demander une garde pour garder un mort. Il est mort, tout simplement. Alors on a scellé la pierre. La première précaution qui est prise, c'est qu'on place auprès du tombeau de Jésus une garde, des soldats qui vont veiller avec beaucoup de diligence. Deuxième précaution, on va sceller la pierre. On ne la roule pas seulement, mais on va mettre des scellés. Comme ça, on sera tranquille. Pour retenir dans la mort le prince de la vie. Excusez-moi, c'est un clin d'œil que je fais au passage. Mais comment retenir celui qui a dit qu'il était la vie ? Je suis la vérité, je suis la vie, et comment le retenir dans la mort ? Alors vous pouvez bien mettre des gardes, vous pouvez bien mettre une pierre, vous pouvez bien mettre des scellés, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne servira à rien. Parce que permettez-moi de dire, comme l'affirme le psaume 2, Dieu se rit, se moque des menteurs, de leur combinaison, de leur gymnastique intellectuelle et juridique. Ils ont pris toutes les dispositions, mais ça ne sert à rien. Il en va jusqu'à se servir de la folie humaine pour prouver que ceux qui veulent tromper autrui se trompent d'abord eux-mêmes. Et ça, c'est la leçon de notre méditation ce soir. Vous savez, je crois que nous avons besoin de prendre conscience que peut-être avant de nous convertir, nous faisions partie des gens qui mentaient facilement. Nous avions peut-être cette propension à mentir pour nous tirer d'affaire ou parce que on a vu beaucoup de gens mentir. On a été peut-être élevé dans un contexte où le mensonge était quelque chose de fréquent. Alors on en prend l'habitude. Dans le monde social, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas rare de voir des gens qui vous mentent. Et des gens qui mentent. Et quelquefois, nous, ça nous choque parce qu'on se dit, mais quand même, c'est bizarre. Ils pourraient dire les choses tellement, tout simplement. Mais au lieu de dire les choses simplement, de les dire en vérité, et vous savez qu'une des... à l'origine du mensonge, c'est souvent la peur, Ouais, on a peur, on ment. Maintenant, il y a des gens qui mentent par plaisir. Il y a des gens qui mentent sciemment pour essayer finalement d'embobiner les autres et de leur soutirer ou d'obtenir quelque chose d'autre. On est dans un monde de mensonges. Et il y a des artistes dans le domaine. Ah ouais, il y en a qui sont des sacrés acrobates. Ils se retirent toujours, ils font les pires bêtises. au su et au vu de tout le monde, et on se demande comment ils se raccrochent aux branches, parce qu'ils arrivent toujours à se remettre debout, jusqu'au jour où. Alors, c'est quand même assez particulier. Hein. On se trompe soi-même. Et la première victime, c'est souvent nous-mêmes. Ça peut durer un certain temps, mais ça ne dure pas toujours. Vous savez que le mensonge ne paie pas. Quand on lit dans le livre de la Genèse, ça commence comme ça. Hein. La chute, la catastrophe de l'humanité, la corruption des hommes, du monde, de l'espèce humaine, ça commençait par un mensonge. Dieu aurait-il réellement dit ? Mais ne vous souciez pas, vous ne mourrez pas. Vous serez comme des dieux, vous vivrez éternellement, et vous pouvez faire ceci, et vous pouvez faire cela. Ça commençait comme ça. Et jusqu'ici, on comprend que c'est intégré dans la nature humaine. C'est tellement viscéral, le mensonge, qu'on ne s'en aperçoit plus. Et de là, ça amène des suspicions, ça amène le doute, naturellement. On se sert du mensonge pour séduire, et puis on condamne les rumeurs, tous ces bruits, etc., etc. C'est terrible, le mensonge. C'est terrible. La dissimulation, j'en passe, c'est des meilleurs. Dans le chapitre 28 et au verset 11, il est dit ceci. « Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. » Il s'agit des femmes qui sont allées au tombeau. Et quand elles sont allées au tombeau précipitamment, elles ont vu la pierre rouler, il y avait un ange qui était là. Elles ont été effrayées de voir cet être lumineux, cet être de lumière. Elles ont dit, mais où est le maître ? Et l'ange leur a dit, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Ça devait être une évidence. Puisque Jésus l'avait dit à plusieurs fois, le troisième jour, je ressusciterai. Et pourtant, elles ont été effrayées. Mais quand elles ont compris, à un moment donné, elles ont réalisé, certainement en faisant le rapport et le souvenir, se remémorant les paroles de Jésus, vous savez ce qu'elles ont fait ? Elles sont allées encore plus vite qu'elles sont venues. Elles ont été voir les disciples en disant, mais le Seigneur est réellement ressuscité. Alors, c'est là où nous reprenons le verset 11. Elles sont retournées dans la ville et... À ce moment-là, ils ont rencontré que les hommes de la garde, ceux qui avaient été préposés là depuis quelque temps, depuis quelques heures en tous les cas, elles les ont vus rentrer dans la ville et annoncer aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Et qu'est-ce qui était arrivé précisément ? C'est ça justement, ce qui devient vraiment intéressant. Vous savez, je voudrais dire une chose, Dieu est un Dieu de vérité. Et nul ne peut arrêter le plan vrai, véridique, authentique, le plan de vérité de Dieu. Personne. Les plus grands de cette terre se sont mesurés avec ça. Les tyrans, les conquérants, les rois, les princes, tous les hommes de pouvoir, militaires ou autres, ont fait l'expérience qu'on n'arrête pas le plan de Dieu. Dieu est vrai. Dieu est dans la vérité. Ses plans, ses pensées, sa volonté, c'est la vérité. Et je peux vous dire qu'elle ne bouge pas d'un iota. Job nous dira ces paroles inspirées par Dieu. Il dira ceci, « Mais quel est celui qui a la folie d'obscurcir les desseins divins ?» Parce que c'est une folie, affirmativement. Alors parlons quelques instants de l'ironie de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que Dieu se riait. Quelques hommes donc de la garde entrèrent dans la ville, et ils annoncèrent, c'est eux qui annoncèrent, vous vous rendez compte, il aurait mieux fait de se taire. Ils annoncèrent quoi ? Que Jésus leur avait échappé. Ah, et pourtant, il y avait la pierre. Quelqu'un qui a été crucifié, quelqu'un qui a souffert pendant des heures, quelqu'un dont on a percé le côté, qui est vidé de son sang, avoir la force de rouler par l'intérieur du tombeau une pierre qui était certainement gigantesque, et faire sauter les scellés, tout ça par l'intérieur, c'est pas évident, hein. Enfin, j'en ai jamais essayé, parce que quand on est à l'intérieur, c'est que c'est mauvais signe. Alors, ce sont les soldats eux-mêmes qui ont annoncé. Et ils n'ont pas dit que Jésus leur avait échappé. Mais Jésus était ressuscité. Voilà. Jésus était ressuscité. Ceux qui croyaient étouffer la vérité entre autres d'abord à commencer par les soldats, qui étaient les instruments du mensonge des pharisiens. À la limite, ils étaient moins responsables que les pharisiens. Eh bien, vont proclamer le triomphe de leur victime. Et il n'est plus dans la tombe. C'est eux-mêmes qui vont dire la chose. Et permettez-moi de faire une remarque. Toutes les précautions prises pour prévenir l'événement de la résurrection, eh bien, va au contraire l'attester et en rehausser la réalité. Ce sont les ennemis eux-mêmes qui proclament. Ouais. Quelle inintelligence de l'homme. On ne marche pas, on ne vit pas, on ne se sert pas du mensonge. C'est pas possible. Alors s'étant rassemblés, les sacrificateurs, puis tous ceux de, finalement, eh bien là, du temple et tous les magistrats, ils se sont rassemblés précipitamment. Et la première chose qu'ils ont faite, comme on le fait encore aujourd'hui, quand il y a mensonge, quand il y a dissimulation, quand il y a danger, écoutez bien, ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Vous savez, rien n'a changé depuis 2000 ans. Quand vous voulez acheter quelqu'un, quand vous voulez acheter son silence, il y a les menaces, ou alors, bon, il y a peut-être les choses comme ils font. Vous savez, ces mêmes gens, quelques jours auparavant, avaient déjà aussi acheté un autre homme. Cet homme s'appelait Judas, pour une misérable somme d'argent de 30 pièces, tout simplement. Et le mensonge entraîne une suite d'autres mensonges et de compromissions que nous pourrions qualifier de détestables. Et à ce moment-là, eh bien, c'est tombé dans un engrenage infernal qui fait que l'homme livré à son péché ne recule devant maintenant aucun expédient. Et quand il est rentré dans le tunnel, eh bien, il ne peut pas s'en sortir. Et il va faire encore davantage, et toujours davantage. Celui qui vole, il ment. Celui qui a des relations illicites, il va mentir. Celui qui va faire un forfait d'une manière ou d'une autre, il est obligé de s'engager dans cela. Parce qu'il ne peut pas faire autrement. Soit il dit la vérité et puis il va être libéré, mais s'il ne veut pas dire la vérité, et parce qu'il ne veut pas dire la vérité, parce qu'il veut toujours paraître bien, comme les pharisiens de notre histoire voulaient toujours paraître bien comme des hommes de bien, comme le nec plus ultra de la société religieuse d'Israël et de Jérusalem, bah, ils étaient mal partis, hein, parce que c'était quand même difficile pour eux de dire, eh bien oui, nous nous sommes trompés. Ça aurait été beaucoup plus simple, hein. Mais ils ne pouvaient pas le faire, parce que il n'y avait pas de marche arrière, finalement. Vous savez ce que c'est qu'une marche arrière sur une automobile, hein. Mais là, il n'y avait pas de, vous ne pouvez pas passer la marche arrière. Donc ils étaient obligés d'avancer. Et là, maintenant, c'est terrible, ils ne vont pas reculer. Tout va être bon pour eux. C'est comme l'histoire de David. David était un homme de Dieu, un homme qui aimait la vérité, qui aimait le Seigneur. Mais là, il s'est trouvé dans une situation, non seulement il va prendre la femme d'un autre, non seulement il va cacher, donc il va mentir pendant à peu près un an, d'après les estimations des commentateurs, mais ensuite il va faire tuer le mari, finalement, de sa maîtresse. Et à un moment donné, eh bien, il va être obligé d'aller de... Il ne va pas pouvoir faire autrement. Et il écrira deux psaumes. Un psaume où il va véritablement s'incliner. Il est roi. Il est un roi vénéré, mais pourtant, il va mettre son orgueil sous ses pieds. Et il va écrire le psaume 32. Et il va écrire aussi le magnifique psaume 31. « Mets la vérité au fond de mon cœur, dira-t-il. Crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. » Mais là, il semblerait que les gens du temps, là, eh bien, ils ne sont certainement pas prêts à le faire. Alors, comme on le dit très souvent, la fin justifie les moyens. Et la fin, on ne regarde pas s'il est bon ou s'il est mauvais. En l'occurrence, si on part sur une base qui est mauvaise, on va arriver au mauvais. Si on part sur une base qui est bonne, eh bien, on arrivera à quelque chose de bon. Il y a un livre qui s'appelle le livre des Proverbes dans la Bible qui nous dit que le pain du mensonge, écoutez bien, il est doux, et plus tard, celui qui utilise le pain du mensonge, sa bouche est remplie de gravier. Vous avez déjà mangé du gravier? C'est pas forcément très, hein, très agréable, hein. Ouais. Comment faire avec dans la bouche du mensonge? Comment faire? C'est quelque chose de très embarrassant. On le crache. Je continue. Ceux-ci, après s'être rassemblés, nous l'avons dit avec les anciens, avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats donc une forte somme d'argent, en disant, dites, les pauvres soldats, hein, c'est pas facile d'être aux ordres des autres. Hein. Quand vous avez des bons maîtres, quand vous avez des gens qui vous sont vos supérieurs hiérarchiques et qui sont des hommes droits, ça va. Mais quand vous avez affaire à des menteurs, à des voleurs, à des bandits, à des truands et tout ce que vous voudrez, des malfaiteurs, et que vous êtes sous leurs ordres, ils ont dit, mais vous n'avez pas à discuter, hein. C'est nous hein, qui vous avons, nous vous donnons de l'argent et vous direz. Vous savez, c'est très désagréable de se faire acheter, moi je ne sais pas, hein, mais c'est pas quand on a un peu d'honneur, c'est difficile. Alors dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Oui, alors ça pose quand même une question. Ils avaient été mis par les ennemis de Jésus autour de la tombe. Pour quoi faire ? Pour dormir ou pour veiller ? En principe, ils avaient été mis là pour avoir l'œil ouvert. Un garde, c'est un veilleur. Et un veilleur, il veille la nuit. Mais il a les yeux ouverts. Et ils dorment. Et c'est même ceux qui leur ont recommandé de veiller qui leur disent maintenant, vous dormez. Vous allez dire que vous dormiez. Alors, c'est vrai que c'était difficile pour les soldats. Parce que l'avouer qu'ils dormaient, n'est-ce pas signer leur arrêt de mort ? Ça comportait une grave erreur professionnelle. Et quelle incohérence dangereuse, une véritable confusion. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions, docilement, sottement. Ils se sont dit, tiens, finalement, cette affaire qui tournait le mal, ça va quand même nous avantager, parce qu'on nous a donné quand même une bonne somme, pour le prix de notre silence, tout simplement. Voilà comment on se fait prendre au piège. Faisons attention quand on est dans une voie, que nous voulons rester dans une voie droite, et que quelqu'un vient vous voir d'une façon ou d'une autre, et essaie de vous acheter. Je ne sais pas, mais personnellement, moi, j'aime pas. Ah oui. Alors, on peut se faire acheter avec de l'argent. Je trouve que c'est vénal et sordide. On peut se faire acheter par des compliments. On peut se faire acheter d'une manière ou d'une autre. Hein. Mais on est mal à l'aise, parce qu'on n'est pas dans la vérité. Ça nous met dans un état qui n'est pas forcément très, très, très bon. Et voilà comment on tue la conscience de quelqu'un. Mais on la tue, on la condamne finalement à la loi du silence. Mais qu'est-ce que ça va être difficile à porter ? Surtout quand il y a meurtre, quand il y a assassinat, comme c'est le cas. Et quand on sait que c'est injustifié, quand on sait que celui que l'on a tué, que l'on a fait crucifier, que l'on nous a présenté comme le plus grand de tous les malfaiteurs de toute la terre et qu'on sait que finalement ce n'est pas ça, vous savez qu'il y a des gens, il y a des hommes et des femmes qui traînent certaines choses par lesquelles ils se sont fait acheter et qui le traînent jusqu'à leur mort, pendant des années, jusqu'à leur mort. C'est quelque chose, c'est un fardeau terrible. Je ne sais pas comment ont pu vivre les criminels de guerre après les forfaits du nazisme et ce qui reste encore aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup, hein. Mais ça doit être quelque chose de terrible. La complaisance, le silence, la dénégation, vouloir finalement dire que tout cela, ça n'a pas existé, que la vérité serait un mensonge, ça ne doit pas être facile. Il faut avoir vraiment une conscience cautérisée pour avaler tout ça. C'est une culpabilité assurée, quoi qu'on en soit. Alors on peut aller au confessionnal, on peut faire ceci et cela, on peut faire des œuvres, on peut se mortifier, ça ne changera strictement rien. Parce que tant que les choses ne sont pas avouées et reconnues, confessées ou il y a une demande de pardon et de repentance, ça ne changera rien. Et ce bruit, et je vais terminer, et ce bruit s'est répandu jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour. Alors peut-être que vous avez entendu parler que l'histoire de la résurrection de Jésus, c'est tout simplement une histoire. Oui, c'est une histoire. Et moi, je voudrais vous dire, c'est une histoire vraie. À la différence. Rumeur que Jésus est ressuscité. Rumeur que Jésus n'est pas ressuscité, mais qu'il a été enlevé par ses disciples. Et il y a des millions de gens qui ont cru que c'était comme ça. Alors, que faut-il croire ? Et je vais terminer. Le choix est entre les ennemis de Jésus et la vérité de la parole de Dieu. En l'occurrence, l'évangile que nous ouvrons ce soir. Il y a un menteur dans cette affaire. Il y a un mensonge dans cette affaire, et ce n'est pas n'importe lequel. Alors moi, je vais vous dire maintenant, je voudrais vous donner, parole de Dieu à l'appui, quelques éléments pour vous dire que Jésus est bien ressuscité. Écoutez, faites-moi confiance, je prends le texte, c'est dans 1 Corinthiens 15, 3 à 8. L'apôtre Paul signera des années après cette écriture. « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » Vrai, selon les Écritures. « Qu'il a été enseveli. » Vrai. « Et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Et il est apparu, vivant, à Céphas, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi Paul, comme à l'avorton, car je suis le moindre de tous les apôtres. Alors, qu'il y en ait un qui ait dit qu'il était ressuscité, qu'il était le seul à le voir, bon. Qu'il y en ait deux, qu'il y en ait dix, d'accord. Qu'il y en ait 100, mais qu'il y en ait 500, parce que c'est dit après dans un autre texte. C'est quand même un témoignage probant. C'est quand même un témoignage. Alors la vérité, la voilà dans la bouche des disciples d'Emmaüs. Dans le même temps. Dans les mêmes circonstances. Évangile de Luc. C'est pas Matthieu, mais c'est Luc. Ces hommes qui font chemin avec Jésus, qui ne le reconnaissent pas au bout d'un certain temps, ils vont partager le repas ensemble. Et au moment où Jésus va rompre le pain, ils vont le reconnaître. Et ils vont confesser. Ils vont dire au monde entier. Ils vont d'abord aller le dire à Jérusalem. Ils vont le dire au monde entier. Ce que les soldats ont dit. Le Seigneur est réellement ressuscité. Et c'est à partir de cette confession de foi, le Seigneur est réellement ressuscité, qu'a été écrite la doctrine qui préside, la doctrine première, essentielle, principale du livre des Actes. Il nous est dit que les disciples prêchaient la résurrection du Christ. Et c'est venu jusqu'à nous, 2000 et quelques années plus tard, et nous le croyons ensemble. Bruit de mensonge. Rumeurs de désinformation, déformation, dénaturation de l'évangile, mais toujours le même instigateur qui est derrière les hommes qui ont fait crucifier Jésus, derrière les soldats, derrière les hommes de tous les temps. Il s'appelle Satan. Et vous savez comment Jésus le décrit, le diable ? Il est dit qu'il est le père du mensonge et qu'il est meurtrier depuis le commencement. Meurtrier, oui, on le voit, menteur, depuis toujours. Jean, chapitre 8, verset 44, vous retrouverez ça. Alors ces hommes ont la conscience agitée. Ce monde religieux que la vérité biblique évangélique indispose, et pour s'en débarrasser, ils vont faire des choses, n'importe quoi. Ces philosophies humanistes que nous avons aujourd'hui, ces nouvelles théologies et pensées modernistes, tout ça, ce sont des relais pour dire « mais le Christ n'est pas ressuscité ». Imaginez-vous, un mort ne ressuscite pas. C'est pas possible. Mais si Christ est ressuscité, c'est parce qu'il est Dieu. Et à Dieu tout pouvoir. Naturellement. Que de bruit ont couru à travers les siècles pour entretenir le doute et étouffer ce que chaque homme doit savoir, c'est que Jésus est vivant, tout simplement. Alors, la critique aura beau mettre en doute ce que Dieu a dit. La critique aura beau déformer la parole de Dieu par adjonction ou tout simplement soustraction. Elle aura beau apporter toutes les accusations, mettre toutes les suspicions d'inspiration et tout ce qui finit en ion, comme vous voudrez, ça ne changera rien. Les hommes s'évertuent à naviguer dans le mensonge parce que la vérité les dérange. Le Fils de Dieu est paru pour sauver les hommes, il n'est pas venu pour les condamner, mais pour mettre en lumière la vérité, pour mettre en lumière la vie. Mais les hommes ont préféré les ténèbres. Et vous savez pourquoi ? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et parmi les œuvres humaines, il y a le mensonge. Tout simplement. La critique aura beau retrancher ce qui déplaît à la raison, à la morale, la vider de son contenu pratique, rien n'empêchera la proclamation de la foi dans un Christ ressuscité et de l'expérience que nous pouvons en faire. Il y a une chose que nous acquérons au moment de notre conversion. C'est un combat pour moi, je me souviens. Je croyais que Jésus était mort, qu'il était ressuscité, et beaucoup de choses. Mais il y a une chose qui me paraissait vraiment très difficile, c'est que j'avais du mal à croire que je ressusciterais avec Jésus. Et il y a eu un combat, un moment, et puis à un moment donné, eh bien, le Saint-Esprit est venu et il m'a donné la conviction. que parce que Christ est ressuscité, eh bien je vais ressusciter aussi. Parce que Christ est ressuscité, si vous le croyez, vous ressusciterez aussi. C'est la logique. C'est l'expérience. Nous ne sommes pas des chrétiens religieux. Nous sommes des chrétiens de l'esprit, de la vie de l'esprit, la foi et de l'expérience que nous pouvons faire parce que nous mettons notre confiance dans ce que nous dit l'Écriture. Alors on ne va pas démystifier la puissance miraculeuse de Dieu. Au contraire, on va dire que Dieu est capable de faire des miracles parce qu'il est tout-puissant, parce qu'il est Dieu. Et la vérité biblique restera à jamais comme elle est. Et si je comprends ce que Paul écrivait à son ami Timothée, il dira ceci en lettres de feu. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue qui annonce que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver et qu'il est ressuscité. Alors d'où vient le mensonge? Il faut que nous ayons la Bible ouverte et le cœur autant ouvert qu'honnête. Alors à ce moment-là, Dieu va nous enseigner. Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Jésus a dit, le troisième jour, je ressusciterai, et il est ressuscité. Alors, pour nous en donner la preuve, eh bien, nous pouvons tout simplement conclure, contre cette rumeur, du contraire, Jésus nous dit, je suis vivant. Je suis tous les jours avec vous, jusqu'à la fin du monde. Il nous est dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment vous comprenez cette parole? C'est qu'il est vivant. Il est mort pour mes péchés, il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Il est vivant, il est au milieu de nous, il est présent, invisible, mais il est bien présent parce qu'il est vivant. Que Dieu nous bénisse ce soir. Nous allons prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que nous sommes dans un monde de contradictions, un monde de controverses, un monde, Seigneur, qui se bataille avec des mots. Mais Seigneur, par-delà, en effet, ce duel, par-delà, Seigneur, ces discours, par-delà, Seigneur, toutes ces choses qui vont dans un sens ou dans un autre, ça ne change rien, Seigneur, à ce que tu es, ce que tu as fait, parce que ta parole nous déclare d'une manière, en effet, Seigneur, où il n'y a même pas de qualificatif pour ajouter, que tu es vraiment ressuscité, donc tu es vivant. Nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous donnes un cœur honnête. Donne-nous de la rectitude, Seigneur, au fond de nous-mêmes. Donne-nous de la droiture. Donne-nous d'être vrais, comme nous pouvons le chanter dans un petit cantique. Rends-moi vrai, Seigneur, parce que j'ai un prix à remporter, j'ai une victoire, en effet, à gagner. Alors, Seigneur, rends-moi vrai. Rends-nous vrai, Seigneur. Et nous savons que tu nous as ouvert ta parole ce soir. Et ta parole, la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors si ta parole nous dit que tu es ressuscité, eh bien moi, nous croyons que vraiment, Seigneur, tu es présent au milieu de nous, tu es vivant, et nous savons déjà ce que tu as fait dans nos vies, dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos âmes et dans nos esprits. Merci, Seigneur, merci parce que tu es ressuscité. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.